quand on avait mal à la tête, c'était encore la camomille. Il y avait pas mal de choses, mais c'était quelque chose qui, enfin, je veux dire, ces plantes étaient récoltées par soi-même, quoi.
La médecine par les plantes, oui.
Au point de vue sorcellerie, je ne sais pas. Il y avait, au point de, pour les vers, mm-hmm. des gosses, mm-hmm. parce que les gosses avaient des vers.
Oui, oui, oui.
Je me rappelle avoir vu un voisin là, qui s'appelait Chastanet, et qui aurait maintenant 65 ou 66, il aurait 107 ou 108 encore.
Oui, oui.
Eh bien, lui, il faisait des billets. Quand un enfant était atteint par les vers,
oui.
la mère venait le trouver avec l'enfant, alors il avait un secret, il faisait un billet, qu'on appelait billet pour les vers. Il cachetait ça et on attachait ça autour du cou de l'enfant.
Et il écrivait simplement dessus ?
Il écrivait simplement.
Il marquait, il mettait rien d'autre, il écrivait.
Non, c'était défendu de le décacheter, sans ça, ça n'avait aucun effet. Et à tel point que cet homme est mort en 1936, là. Il m'avait dit un jour, il me dit, tu viendras, je te ferai voir comment il faut faire un billet pour les vers. Moi, je n'étais pas tellement... Vous voyez,
vous ne croyez pas
tellement. Non, absolument rien.
Ça vous fait rire.
Le vieux, il peut toujours courir. Et maintenant, si je l'avais, cette formule, je serais curieux. Enfin, je voudrais la connaître.
Eh oui, curieux de la connaître.
Tu n'étais pas là.
Il faisait un billet. Ils attachaient ça autour du cou, ils le gardaient longtemps.
Grosse, oui. Et alors lorsque la mère, vous allez me pardonner de mes expressions, mm-hmm. lorsque la mère voyait que dans les excréments de l'enfant, il y avait des vers, elle disait, ça y est, mon enfant est guéri.
Ah bon. Et il retirait le billet à ce moment-là.
Oui.
Celui-là.
Il y en avait d'autres. Il y en avait un autre voisin encore. Il conduisait ce qu'on appelle le feu. Il conduisait le feu. Lorsqu'on était victime d'une brûlure, il fallait aller le trouver, il faisait quelques signes dessus. Et la brûlure était guérie pratiquement.
Oui, elle ne faisait pas de cicatrice.
Pas de
cicatrice. Oui, il y en a beaucoup dans beaucoup de régions. Et vous connaissez
lui,
pas
alors,
son tour.
Ah ben là, je ne sais pas ce qu'il disait, mais ce qu'il disait pas absolument rien.
Oui, pour le feu, il y en a beaucoup qui ont des combines. Mais ça existe encore.
Ça existe encore. Ça existe encore. Moi, je connais encore une personne du côté de Chambly, là-haut, qui dit ici, Pâques était probablement moins célébré que le jour des rameaux.
Oui.
Le jour des rameaux, je me rappelle voir ma grand-mère, elle m'y avait emmené à la messe, elle partait avec son brin de buis, sur lequel on avait fixé deux noix ou trois, des noix sèches. Il fallait percer la coque de la noix et la fixer sur le brin du buis. Et alors ce buis, en revenant de la messe, il fallait le porter dans les champs de blé.
Oui.
Parce que le blé ne poussait pas si par exemple il n'y avait pas de buis béni dans le champ, dans le coin du champ. Et moi je me rappelle très bien, en allant à l'école, dans les coins de champ, vous voyez un bout de buis béni. Oui. Et Pâques, par contre,
il y avait les œufs.
Il y avait les œufs, oui. Il y avait cette histoire de les jeunes qui passaient dans les villages ramassaient des œufs pour faire les omelettes qui avaient lieu le jour de Pâques. Le lendemain, le lundi de Pâques. Mmh. Et les jeunes ramassaient des œufs.
On entendait parler d'un
jeu. Avec un accordéon. Ils passaient dans la nuit, il fallait se lever pour leur donner des œufs, ils en avaient des campagnés. Ils jouaient. Ça s'appelait la Passion de Jésus-Christ, enfin je ne sais pas comment on traduit en français. Trois ou quatre rythmes, là, la Passion de Jésus-Christ, venez, vous êtes gentil, enfin moi j'aime ça.
Oui.
Et le lundi de Pâques, c'est les jeunes qui avaient ramassé ces œufs pendant toute la semaine précédente, ils se réunissaient dans un petit café et puis ils faisaient faire des omelettes. Volumineuse, quoi.
Oui, oui. D'accord. Mais on entendait parler d'un jeu aussi pour le jour de Pâques, pour les petits, le jeu de la roulée. Il faisait rouler les œufs. Vous ne l'avez pas fait, ça, vous ? entendait vaguement parler de ça, mais il ne se rappelait pas bien. Il semble que c'était avec des œufs durs qu'il peignait, il les faisait rouler dans les champs. Il les faisait rouler dans une bande, sans doute. Puis celui, évidemment, que son œuf ne se cassait pas, devait gagner, mais on ne sait pas exactement comment ça se passait.
Non, ça, je ne me rappelle pas. Il y avait le jeudi saint. Le jeudi 16. Donc le jeudi avant Pâques, il y avait un service à l'église là-bas. Et les gosses, chacun était venu d'avoir ce un fameux jouet qu'on appelait, je pense, une crécelle. Vous savez, il y avait une manivelle.
Ah oui, d'accord.
Et avec un machin qui tournait sur une roue dentée.
L'instrument de musique.
On appelait ça en patois, ici les rannes.
Les rannes,
par analogie avec cet insecte de qui vit dans les ruisseaux, même dans les cerfs qu'on appelle là, et qui s'appelle comment? Je ne sais pas si pendant les nuits chaudes d'été, vous n'avez pas entendu chanter qui fait ra 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 ra. C'est pour ça qu'on appelait le petit.
Le genre de cri-cri.
Oh, mais c'est plus beau que les petits.
Les sauterelles vertes, des grosses sauterelles, non?
C'est un coléoptère, mais. Enfin.
Une grosse sauterelle?
Comment ça s'appelle? Combien? Pas que celle, c'est le jouet, ça s'appelle.
Oui.
Et en patois, on parle de rane aussi bien pour l'insecte que pour le jouet.
Voilà, c'est ça.
Voilà, parce que
et alors,
le son du jouet et le même son du chant de l'insecte. Là.
Alors comment ça se passait le jour du...
Le jeudi saint. Là, il fallait se rendre au service l'après-midi, là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je pense que ça devait être des vers pour Jean-Claude.
Oui, oui.
Et alors les gosses, on allait tous à l'église et au moment donné, je sais que le prêtre disait qu'il fallait...
Ils jouaient les crécelles dans l'église.
Oui, oui, actionner ça dans l'église, pas pendant 2 heures, quoi, mais enfin pendant un moment, pendant qu'ils faisaient... Oui. Voilà. Alors Noël, vous savez, ici, c'était pareil, il y avait bien des réunions de famille.
C'était une veillée un peu plus prolongée.
Un peu plus prolongée, mais ça n'était pas marqué d'une façon excessive.
Qu'est-ce que vous y mangez, Noël?
Ben, Noël, en principe, il y avait toujours la dinde, le fameux dindon, ou le dindon. Ah oui, si c'est une région, on a toujours
mangé... Bon, on faisait l'élevage, tu vois, on a l'air.
Oui. Oui.
Le dindon, les marrons.
Les marrons. Du cidodo.
Ou... Les boudins aussi, des fois, non?
Ah ben, les boudins. En principe, les sacrifices des cochons n'avaient lieu qu'au carnaval.
Au carnaval.
Oui.
C'est-à-dire que pour le carnaval, alors on tuait un cochon.
Ah oui.
Toutes les familles. On s'arrangeait pour avoir le cochon, on s'arrangeait pour qu'il soit venu au Mardi Gras.
À ce moment-là. Puisqu'on vous a parlé de l'élevage des cochons gras. Là.
Oui, les cochons noirs.
Eh bien, les cochons gras, la foire où on vendait les cochons gras, c'était le 17 janvier à Tulle. Le jour de la Saint-Antoine, je crois.
Oui.
Et chaque famille vendait ce qu'ils avaient en surplus, en trop, et ils gardaient l'heure. Alors, comme le Mardi Gras a toujours lieu, en principe, dans le mois de février, ils le tuaient 15 jours plus tard, quand ils avaient...
Ils étaient bienvenus.
Voilà.
Une journée, là, que ces cochons, ils ne pouvaient plus marcher quand ils étaient venus.
Ah oui. Ça, c'était la race, l'ancienne race limousine.
Cochon limousin.
Oui, cochon limousin.
C'est perdu.
Qui mettait...
Et qui avait du bon jambon.
Jambon très arrondi, mais gras aussi. Gras aussi, parce
qu'il avait un bon goût.
Ah bon. Même la viande avait un bon goût. Mais il n'était pas rare de voir un cochon de 300... Par exemple, 150, 300 livres, 150, 160 kilos. Parce qu'on parlait en livres.
Oui, on parlait.
150, 160 kg, 170, même il y en avait qui avaient 15 cm d'épaisseur de la gras.
Oui, sûr, ça faisait de la graisse.
Ça faisait de la graisse.
Qu'est-ce qu'on en faisait de cette graisse?
Eh bien, ils s'en servaient comme matière grasse toute l'année. Ils achetaient peu d'huile. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pendant l'éveillé, on cassait les noix pour faire l'huile. Pendant l'éveillé.
Il y avait un appareil pour faire l'huile ensuite, non?
Oui, il y avait des... Je sais pas comment...
Comme un moulinet à café, là?
Comment?
Un peu comme un moulinet à café, c'était fait, non?
Oh là là, mais c'était plus important. Vous voyez, c'était le même système que pour écraser les pommes acides.
Ah, un petit pressoir, là?
Oui, oui, mais c'était un des pressoirs, oui.
Mais par famille, alors chacun avait
le sien. Ah non, on allait le porter, c'est des types qui faisaient ça.
Ah bon, le gars il venait au village ou il habitait au village?
Non, il n'habitait pas au village, il fallait aller chez lui.
Oui, d'accord.
C'était fixe. Ici vous en aviez un, ça n'existe plus maintenant, au Pesac on appelle.
Et ça n'existe plus du tout?
Je pense que ça ne doit pas... Enfin, vous pouvez vous
renseigner. Ça fonctionne plus, mais
peut-être
mais ça existe encore.
Au Pesac, c'est-à-dire... C'est sur la route de Tulle, après les carrières là-bas, les carrières du Pesat, avant d'arriver à Tulle.
En allant vers Tulle alors?
Oui.
Sur la nationale là-bas?
Non, non, c'est pas sur la...
C'est en repassant par la petite route?
Oui, vous n'y avez peut-être jamais passé, là où on exploite des carrières, sur la petite route, en passant par Saint-Clément, là.
En passant par Saint-Clément. Oh ben on se fera guider par les...
Oui, oui.
Il y a des gars qui sont de la région.
Le Pesat, c'est à environ...
Peau jaune ou...
Ah oui.
On est sur la peau jaune.
Et alors il y avait deux sortes de fabrication dans l'île. Il y avait l'huile vierge, qu'on appelait la première qui sortait, c'est-à-dire... Parce qu'ils chauffaient, ils les broyaient, les noix, les anneaux, et puis ils le chauffaient. Mais progressivement. Mmh. Et alors, la première huile qui sortait, c'était l'huile vierge ou blanche, qu'ils appelaient. Mais ça ne représentait qu'un quart de la production totale. Alors celle-là, elle était réservée pour les grands jours, les
grandes occasions.
Les grandes occasions.
Et ensuite, ils le renvoyaient, alors?
Et alors, après, quand ils chauffaient à fond, c'était l'huile plus foncée, et l'huile de consommation courante, quoi.
Oui, d'accord. Alors, avec 2 litres d'huile, il en fallait 3 kilos de noix.
Non, pour 1 litre d'huile, il leur fallait 3 kg de cerneau, environ. C'est-à-dire, ça représentait peut-être bien 4 kg de noix brutes.
Comment vous appelez ça, les noix épluchées les...
Cerneau. Du cerneau.
C'est eux?
Je l'appelle. Parce que.
C'était la. La...
Je l'appelle. Ça, c'est cerneau, c'est français. En patois, on appelait ça. Je vais essayer de le trouver, mais c'est pareil. Ah oui, il y a ces vieux mots. Mais c'est vrai, on les oublie comme ça.
Eh oui, oui, parce qu'on n'a plus l'habitude de s'en servir.
Voilà.
Ça se perd notre langue.
C'est vrai.
C'est pourtant la langue maternelle, presque, mais ça se perd, malheureusement. L'occitan.
Voilà, c'est vrai.
Il y a des jeunes qui recommencent à apprendre maintenant.
Oui.
Mais ils apprennent.
Oui, on l'a modifié, et bien sûr, on en fait une au mois de juillet, une au mois de mai, une.
Sinon, c'était la fête votive le 1er septembre.
Le 1er septembre, ça doit descendre de très loin parce que c'était le château de Blanchefort qui dirigeait les foires de la Gaulière. Le château de Blanchefort qui existe encore à la Gaulière, oui, oui. Là. Et c'est eux qui tenaient les foires. Et ils avaient décidé, bien sûr, les seigneurs, que ce serait le 1er septembre. Et ça a duré jusque dans les années 50. D'ailleurs, la foire du 1er septembre existe toujours. Mais pour la commune, la foire du 1er septembre, c'était la fête votive.
Oui, pourquoi on l'appelait fête votive?
Et votive parce que c'était en liaison avec ces foires qui étaient dirigées par les seigneurs et l'église. Vous voyez? Alors c'était la vôtre qu'on appelait, la vôtre.
D'accord. Les dévotions, etc. Il faisait des dévotions le jour de la fête, non?
Le jour de la fête, non. Le jour de la Saint-Jean, il y avait des dévotions ici.
Oui, les dévotions étaient à la Saint-Jean. Oui.
Et moi, même encore. Enfin, maintenant, je ne me rends pas compte. On allait à la fontaine de la Mythe, à la forêt de Blanchefort. La fameuse eau qui guérissait tous les maux.
Ah bon, ils n'ont pas comme ça par là?
Oui, il y a une fontaine d'Amnite dans la forêt de Blanchefort.
C'est le petit Lourdes alors?
Elle existe encore.
Dans la forêt de Blanchefort?
Oui.
Quand on était malade, on allait là-bas, on se passait.
Ah, tout le monde y allait là-bas. À tel point que les gosses, lorsqu'on allait à l'école, vous voyez, on tirait profit de cette histoire-là. Parce que toujours à la Saint-Jean, les gens venaient de la région, là,
de partout.
Jusqu'à 30 km d'ici, ils venaient. Alors, ils allaient à cette fontaine de l'Ermite, et un faisait. Il voulait que son gosse soit guéri, que son parent, ou de ceci et de cela. Alors, il fallait laisser un cadeau dans cette fontaine. Il y avait des fois qu'on trouvait un mouchoir, qu'on trouvait. Il y en avait d'autres qui laissaient des pièces de monnaie. C'est ce qui nous intéressait, nous. Le lendemain, on allait à la fontaine de l'Ermite pour des pièces de monnaie. Bien entendu, les chiffons qu'on voulait laisser.
Oui, ça arrangeait les jeunes du coin.
Vous dansiez autour du feu?
Oui, vous sautez, oui.
Vous vous rappelez les danses que vous faisiez?
Oh, les danses, je ne sais pas exactement. Non, je ne me rappelle même pas. On m'en racontait bien quelques mots comme ça, qu'est-ce que c'était, ouf. Sauta, tu sautes, un bateau à quoi? Vous sautez, un bateau, c'est lambé, la traduction. Tu sautes pas, et puis donne-moi ta main, je ne sais pas. Machin comme ça.
Vous vous rappelez pas un petit peu comment ça se chantait sans patois même?
Quelque chose dans ce genre. Vous avez été très doué pour les chansons.
Et après, qu'est-ce qu'il y avait?
Je crois qu'on répétait toujours ça.
Ah oui. Alors ça veut dire, sautera pas.
Oui, donne-moi ta main, parce que c'était plutôt une réunion de jeunes gens.
Oui.
Il y avait tout le monde.
Oui, d'accord.
Il y avait tout le monde. Alors il fallait porter, faire fumer, et beaucoup de plantes. Il fallait porter un pied d'ail, il fallait porter.
Ah bon, à ce fait
des fleurs de sureau. Quoi plus encore? On pouvait d'ailleurs faire fumer tout, mais il y avait quelques plantes, les fleurs sur le pied d'ail. Déjeuner. Alors ce fameux jeûner, après il servait à faire la tisane quand on avait mal au ventre.
Ah bon?
Déjeuner fumé du mois de feu de la Saint-Jean.
Ah tiens, je savais pas ça.
Voilà, c'est vrai, c'est encore ça que ça revient. L'ail, je crois que c'était l'ail. Qu'est-ce qu'il fallait en faire quand? Quand quelque chose, un thon vous piquait, il fallait frotter la morsure avec le steak qui avait été fumé au feu là.
Alors il a fumé simplement, il ne la faisait pas brûler.
Ah non, il a passé dans la fumée, c'était tout.
Oui, d'accord.
Et la tisane de sureau, ils en faisaient des cataplasmes.
Mais c'était pour guérir quel
mal? Et si on avait mal à la gorge, par exemple, on faisait un cataplasme de feuilles de fleurs de sureau là. Puis on le mettait là, bien sûr, ça tenait chaud, et puis ça avait quand même un effet.
Et le jeûner, lui, c'était pour?
Quand on avait mal au ventre.
Mal au ventre. Et il faisait un cataplasme aussi?
Non, de la tisane.
De la tisane.
La tisane, avec ses fleurs de jeûner.
Oui, d'accord. Il venait
les conserver.
Il y avait d'autres plantes, vous ne vous souvenez pas?
Non.
Alors c'était essentiellement les jeunes qui dansaient au
feu. Oui, en principe. Oui,
c'était important, non? Parce qu'il y avait un grand feu.
C'est sur la place de la Gaulière.
Beaucoup plus important que maintenant.
Oui.
Tout le village était là.
Mais tout le village était là, mais il n'amenait pas. Mais je pense qu'il amenait le fagot.
En effet.
Et les cendres, vous les laissiez?
Les cendres, il fallait les laisser. Il fallait les laisser jusqu'au lendemain matin. Alors, chose que je n'ai jamais réussi à voir, moi, on disait que la Sainte Vierge venait se peigner sur les cendres des feux de Saint-Jean. Et il fallait trouver des cheveux. Mais moi, je ne les ai jamais vus, les cheveux, voyez-vous. Ça, c'était une légende, moi, je ne...
Oui,
Et le lendemain, vous ne rapportiez pas un peu de cendre pour porter chance?
Non. Ça, c'est non. Ça restait 2-3 jours comme ça, puis vous savez, ça se dispersait.
On va à la pluie.
Comment il y avait des personnes qui disaient que la Sainte Vierge
si on trouvait son cheveu, alors qu'est-ce que ça...
Ah ben, je ne sais pas à quoi ça pouvait...
Je ne savais pas ce qu'il disait.
Parce que moi, je n'en ai jamais vu.
Oui. C'est-à-dire que c'était des croyants.
Oui. La commune de la Grenière. Mais il faisait un feu de Saint-Jean, en particulier au village, quoi, réservé au village.
Oui, d'accord.
D'ici, on allait à la Grenière, mais pas tellement loin d'aller là.
Oui.
Ensemble. C'est une fois par an.
Par an?
Une seule fois.
On devait laver beaucoup de linge.
Oui, c'était la grande, tout le monde était là.
Ça témoignait d'une certaine richesse. Les maisons qui faisaient la lessive plusieurs fois dans l'année, s'ils n'avaient pas assez de linge.
Oui.
Alors, pour tenir toute l'année, vous voyez.
Alors c'était les moins riches.
C'était
les moins riches.
Alors c'était des cubes ovales. Qui faisait au moins ça.
La grandeur de la table.
Oh oui. Alors voilà. Et la hauteur de la table à peu près. Elles étaient sur des pièces, 4 pieds ou 3 pieds. Et alors il y avait le robinet ici. Et on entassait de l'âme dans cette cuve.
Un robinet en dessous vers le bas.
La vidange. Et il y avait une petite clayette au fond de la cuve. Pour que le premier linge ne touche pas le fond directement.
Il y a une petite calette. Pour laisser passer l'eau, quoi, que ça
oui,
bouge pas.
Ça permet de l'écoulement. On a passé le linge, on est là, les autres de toile, vous savez, les chemises de toile aussi, que tout le monde portait aussi.
Les blouses aussi, non? La blouse limousine, ça se portait?
Ça se portait, mais ça, les blouses, ils les lavaient quand même individuellement.
Oui, parce que
individuellement, parce qu'elles tachaient. Elle tachait le linge blanc.
Ah oui, d'accord. Oui, et c'est-à-dire tout le linge blanc.
Tout le linge blanc.
La toile de chambre, tout ça.
Je posais une question.
Oui.
Alors, l'entassé se lève, il mettait de la cendre de bois. Cette cendre, il fallait la passer, bien entendu, il ne fallait pas mettre de charbon, dans des tamis assez fins. Mmh. Il la passait, il fallait surtout avoir de la cendre, d'après ce que j'avais entendu, moi, de la cendre de bois blanc. C'est-à-dire de hêtre, de peuplier, ou même de tilleul, mais le tilleul, c'était pas commun, de noyer.
Oui, parce que le tilleul, on ne coupait pas pour le chabourier.
N'oubliez pas de remettre de cendre de châtaignier. Pourtant, dans le bois de châtaignier, il s'envolait beaucoup. Les femmes prétendaient que cette cendre de châtaignier donnait un ton un peu foncé au linge.
Ah bon?
Oui. Alors, ils faisaient couler ça toute la journée. Là, il y avait un gros chaudron qui chauffait dans la cheminée. Mmh. De l'eau chaude, avec une casserole, on mettait ça sur la cuve où il y avait le linge. On récupérait ici, et puis on recommençait. Et pendant toute une journée, on a fait ça.
Mais la cendre, comment il la mettait?
La cendre, il la mettait sur le linge.
Sur le linge, partout dessus.
Oui.
Ils en mettaient épais.
Oui.
Et ça l'avait
bien épais?
Ah oui, la cendre.
4 cm?
Oui, une bonne. Ils appelaient ça une bonne cendre, vous savez. Oui, 4, même peut-être plus. Et alors, le travail qui consistait à mettre le liquide, en patois, on appelait ça jeter. On jetait sur le linge.
Ah oui, jeter sur le linge.
Voilà.
Et tout ça pendant une journée?
Ah, une journée.
Mais et alors, le lendemain... C'était qu'une fois
par an. Oui.
Le lendemain, les femmes s'entraidaient entre elles, elles partaient toutes aux pêcheries, là, dans des réservoirs d'eau, où il y avait des bancs de pierre, et puis elles lavaient le linge. Et le lendemain ou la semaine suivante.
C'est-à-dire que là, elle frottait, elle rinçait.
Voilà.
Mais elle rinçait surtout, elle frottait sur la pierre.
Elle frottait un peu,
et
sur la pierre,
avec des batoirs, non
peu, puis...
Elle rinçait, d'accord.
Voilà.
C'est ce qu'on appelait les lavandières, ça alors.
Eh bien, oui, un peu. la rendir. D'ailleurs, on disait ceci, qu'il ne fallait pas passer trop près des femmes qu'il avait, parce qu'on savait tout ce qui se passait dans le village.
Ah oui, puisque tu as envoyé le lien.
C'est ta mère.
Eh oui.
Oui. Enfin, ça c'est...
Là, à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'histoires comme ça.
Mais oui.
Et le linge ne le battait pas avec des battoirs?
Un peu, mais pas tellement.
Ça avait enseigné après.
Après. Quand ils ont commencé.
C'est pas la même époque.
Employer les lessives, justement.
Ouais, les premiers savants, les premiers. Oui.
Ils n'avaient pas ça.
Et oui. Les battoirs, c'est venu avec les lessives.
Voilà.
Même les lavandières, d'ailleurs, c'est venu avec les lessives. Quand on lavait avec la cendre, c'est pas.
Voilà.
Et quand il y avait.
Non, mais pour sécher le linge, il les séchissait dans la nature.
Mais sur les haies.
C'est la haie. Oui, et il y en avait beaucoup plus que maintenant de haies.
Je me rappelle, moi, étant gosse, ça représente 50 ans, si vous voulez. Et il y avait tout le tour, là. Et depuis, il y a une percherie, dans le fond, là. Ce qu'on appelle une percherie, c'est un réservoir d'eau, là où il avait. Eh bien, depuis la percherie avec une église, c'était plein de linge le jour où ils avaient lavé.
Ah, c'est bien.
C'était plein de linge.
C'est bien, c'est bien.
Mais... Alors, il y avait autre chose aussi. Le jour où ils se mettaient, les femmes s'embêtaient pour faire des couvertures. Pour les lits.
En laine tricotée?
En laine, non. La laine des moutons. Qui préparaient, après ils avaient un appareil, 4 barres, on appelait, et puis ils mettaient une toile dessous, une couche de laine, une toile dessus, et c'est ce qu'on trouve dans le commerce maintenant sous le nom de couverture piquée, voyez-vous.
Ah oui, ah c'est la vraie couverture.
Voilà.
Avec 2 toiles et la laine de mouton dedans.
Voilà.
Et les toiles, elles étaient faites avec le chanvre ou...
En principe, oui.
Tissé au chanvre.
En principe.
Et ils utilisaient des draps à l'époque, vous vous rappelez pas?
Ah oui. Ah oui, ici, dans nos régions, il y a toujours eu des draps. Grossiers.
Fait en chanvre.
En chanvre, ou en lin.
Voilà.
Voilà.
Oui, parce que...
Voilà.
C'est-à-dire que ça dépendait de la richesse de la famille.
Voilà.
Ouais, d'accord.
Parce que pour cultiver le chanvre, il fallait des terres fertiles. Mm-hmm. Et il y avait une petite astuce aussi, c'est que le chanvre, vous savez qu'il y a, il y a la plante mâle et la plante femelle. Il faut savoir les trier.
Ah bon?
Eh bien oui.
Eh oui, parce qu'il fallait garder les deux pour que ce
soit produit. Et il fallait pendant un certain temps laisser les deux pour que la fructification se fasse. Mm-hmm. Et puis après, il fallait que garder la femelle, le mâle valait rien pour les fibres. Pour faire des fibres. Tandis que le lin, c'était autre chose. C'était une culture à double usage. Et le lin, la graine de lin, leur servait pas d'une façon alimentaire tellement importante, mais ils faisaient de la tisane de lin, ils s'en servaient pour les bovins, et la tige du lin leur servait à faire des textiles.
Ils s'en servaient pour les bovins, pour les soigner de maladies?
Mais bien sûr, il n'y avait rien. Bien, par exemple, vous aviez des bêtes qui étaient constipées ou n'importe quoi, on faisait de la tisane de lin.
Une tisane de lin.
Voilà.
Pour la constipation des animaux. Oui. Même des personnes, non?
Des personnes, ouais. Même chose.
En moins grande quantité ou en plus grande. Ah, mais ça aussi, c'est un remède qui
ne se pratique
plus du tout. Ça, on ne voit plus du tout.
Quand on va en pharmacie, pour des enfants, vous savez, on vous donne un remède. Et pour radoucir un peu, on en passe de la tisane d'huile de lin, de graines de lin. On en passait un peu ça, comme si c'est les plaies.
Sur les gerçures, tout
oui. Il y avait quelques femmes qui réussissaient à faire des crèmes qu'elles se passaient sur la figure.
Pour le visage.
Pour le visage. Mais ça, je ne suis pas...
Vous ne savez pas les recettes
là. Ah non, là, les recettes.
Vous savez pas s'il y a une
dame. C'était des coquettes, on appelait ça les coquettes.
Les dames au village qui connaîtraient cette recette.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettaient là-dedans.
qu'on ne travaillait
pas. Et c'était pourquoi sur le visage?
Eh bien, exactement, comme on passe des...
Comme elle se passe des pommades pour être jolie, pour être belle.
Oui, c'était
pour éviter les rides, pour tenir la peau.
Il y avait un jeune.
Oui. La crème de beauté.
Oui.
C'est pas une vieille dame, des fois, qui pourrait nous indiquer là-dessus.
Votre femme.
Je parle depuis la naissance. Depuis la naissance. La naissance s'effectuait dans la maison, quoi. Et il y avait des sages-femmes qu'on appelait.
Oui. Il y avait des sages-femmes.
Oui. Il fallait, aussitôt que la mère manifestait, il fallait aller chercher cette sage-femme. Elle venait et elle regardait, bien sûr, faisait ce qu'il y avait à faire. Et au bout de deux ou trois jours, il fallait, bien sûr, aller à la mairie, le lendemain. Mais il fallait vite le présenter au curé, quoi. Pour le baptême.
Oui, oui. Mais il baptisait à quel âge?
Ah, mais les familles bien pensantes le baptisaient au bout de trois ou quatre jours.
Ouf, ah, monter ouais. Aussitôt.
Mais
il y avait une fête pour le baptême, il y avait des invités.
Ceux qui baptisaient si tôt comme ça,
non, ils ne faisaient pas.
Ils ne faisaient pas une grande fête. Mais après, il y avait un renouvellement du baptême.
Ah bon?
Au bout de 5 ou 6 mois, 3 mois, je ne sais pas, enfin, Mais en principe, ceux qui étaient un peu moins croyants, ils baptisaient 5 ou 6 mois.
Oui, d'accord.
Et là, on faisait une fête.
Alors le parrain, au premier enfant, en principe, on prenait le parrain, c'était le grand-père et la grand-mère d'un côté, enfin grand-père maternel, grand-mère paternelle ou inversement, oui, ça dépendait comme ça se présentait.
Pour le premier enfant?
Pour le premier enfant, en principe, c'était ça.
Et pour le deuxième enfant?
Alors pour le deuxième enfant, c'était les frères, s'il y avait des oncles plutôt, ou ainsi de suite. Et même, on arrivait à prendre des personnes étrangères dans des familles nombreuses.
Oui.
Vous voyez, dans les familles où il y avait 7 ou 8 gosses, on prenait des personnes étrangères. Je me rappelle ma grand-mère ici. Elle
était... Ou des frères, des sœurs même.
Oui. Oui. Je me rappelle ma grand-mère, elle avait été marraine d'une fille qui avait 7 ou 8 frères. Ils n'étaient pas du tout parents. Mais enfin, on s'offrait comme ça pour être.
Oui.
Parce qu'il était de rigueur que le parrain achète les robes, enfin c'était des robes aussi bien pour les garçons que pour les petites, pour le baptême. C'était une robe de baptême.
C'était la robe, oui, mais c'est pour le garçon, pour la fille.
Alors c'était le parrain et la marraine qui devaient les payer. Alors les familles qui n'étaient pas trop fortunées, pour leur service, il y avait des fois des personnes qui s'offraient,
oui, un peu plus
fortunées, qui achetaient leur robe de mariée. Alors là, ils n'étaient pas marraine ou.
D'accord.
Et dans l'église, qui est-ce qui portait l'enfant?
Je pense que c'est la marraine.
La marraine.
Mais les dieux. Moi, c'était pas vrai pourtant. C'est la marraine pour ton enfant. La compagnie. On est bien ensemble, je ne sais pas comment.
Oui, la cérémonie habituelle.
Oui, ça, c'est.
Ça n'a pas changé. Mais il y a une fête qui durait toute la journée alors.
Ah, toute la journée.
Au repas.
Ah, oui, même partie de la nuit, ça dépendait.
Ah bon?
Oui.
Et le repas du midi et le repas du soir.
Oui, parce qu'en principe, le baptême avait lieu l'après-midi ici. Je ne sais pas si ça se passe
cet après-midi.
Comme ça, mais. Ou quelquefois ceux qui me faisaient faire au moment de la messe, mais en principe c'était plutôt l'après-midi.
Oui.
Alors les personnes qui venaient de loin, qui étaient invitées, qui venaient de loin, avaient déjà mangé.
À midi.
Et ceux qui étaient de moins loin, qui venaient au baptême.
Ils venaient l'après-midi,
le soir c'était le repas.
Oui. Et puis on faisait une grande veillée.
Oui. Oui.
Une veillée comme d'habitude.
Même qui se prolongeait des fois tard dans la nuit.
Ils dansaient, chantaient?
Non, ils dansaient pas tellement, mais ça chantait.
Il y avait des chants spéciaux pour ce jour-là?
Oh ou... non, ils chantaient bien n'importe quoi.
Oui, c'était les chants de tous les jours. Mariage, beau mariage.
Ah, mariage. Alors là, je
il devait y avoir des tours là, qui se faisaient. Là.
pour le mariage, il devait y avoir toute une cérémonie, non?
Ben, le mariage...
Ça devait pas se passer si rapidement que maintenant.
Non. Enfin, le jour du mariage, les garçons se rendaient au domicile du marié.
Oui.
Je parle des jeunes gens.
Oui.
Et du domicile du marié, après, il fallait aller chercher la mariée, avec l'accordéon en tête.
Oui,
en tête, s'il y avait beaucoup à faire de chemin, l'accordéon ne jouait pas toujours, mais enfin, il y avait un petit cortège qui se formait peut-être 300 ou 400 mètres ou 500 mètres avant d'arriver chez la mariée. Mmh. Alors, c'est là que la mariée attendait, et puis de là, on partait à la mairie et à l'église.
D'accord.
Mais... Alors, les autres invités qui étaient parents mariés suivaient, bien sûr.
Oui.
Alors, il y avait les cavaliers, les cavalières, et on faisait des couples. Quoi.
Mmh. Et la mariée entrait au bras de son père.
Voilà.
Et le marié au bras de sa mère. La queue.
Le marié à la queue.
Mais est-ce qu'il y a des farces spéciales ou pour les mariages ou des trucs comme ça ou...
Oh, farces spéciales. Non, il y avait au cours du repas, il fallait essayer, c'était le garçon d'honneur, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il coupe les jarretières de la mariée. Il fallait que la mariée crie pour que véritablement on les ait coupés, quoi.
Et ça se faisait réellement ou c'était comme maintenant pour ces histoires?
Ben oui, alors après on coupait ces jarretières en petits morceaux et chacun les mettait sur le...
Oui, mais
le lendemain matin, il y avait ce qu'on appelait le réveillon. On portait le réveillon aux mariés. Et il y avait un petit système aussi. Il fallait leur faire manger l'avoine, on disait.
Qu'est-ce que c'est?
Ça consistait en ceci. Les jeunes gens, les jeunes filles, bien sûr, se présentaient dans la chambre où ils avaient couché, les mariés, ils leur portaient à manger et à boire, et il y en avait. Ça,
il
n'y avait pas de problème. Alors, l'histoire de manger l'avoine, il fallait avoir un chapeau large comme on en avait dans la région. On mettait de l'avoine sur le bord du chapeau. Alors, celui qui était chargé de ça, il présentait la soupe à la mariée, il disait mangez de la soupe. Puis en même temps, il faisait tomber l'avoine dans la soupe.
Ah.
L'avoine, ça nourrissait les ânes d'habitude. C'est pour ça que ça faisait rire les gens.
Ils secouaient sur le chapeau. Il faut bien dire que les mariés n'en mangeaient pas souvent. Parce que quand ils voyaient tomber la vanne, ils ne voulaient plus de rien. Alors il y avait quelques petites...
Parce que la vanne, c'était, on leur faisait manger ça parce que c'est ça avec...
Parce qu'on pensait qu'elles étaient fatiguées, vous voyez, que la vanne les remettrait un peu comme on donne au chaud. Mais oui, mais c'était
pour leur donner des forces.
Oui, c'est ça, c'était fait dans cet esprit-là.
C'est-à-dire que l'avoine était supposée donner beaucoup de force aux jeunes mariés. À la mariée et aux mariés ou...
Oui, aux deux.
Aux deux.
Aux deux, aussi bien à l'un qu'à l'autre. Mais enfin, le marié, lui, il ne faisait pas... Les mariés, en principe, mangeaient de l'avoine, mais le marié, souvent... On lui aurait fait manger de force.
Oui, alors que le marié, on n'osait pas trop.
Eh bien, pas que moins, quand même.
Oui. Bien.
Mes parents les mariaient déjà. Mariés, non. Mais essayer de les faire réunir pour qu'ils en sortent un mariage.
Oui. Mm-hmm.
Et ça, c'est quelque chose qui a... Il a persisté, je pense, jusqu'à la Deuxième Guerre. Parce qu'il y avait certains critères qu'il fallait respecter ici. Un riche ne pouvait pas épouser une personne pauvre.
Oui, suivant la fortune, le propriétaire.
Voilà. Il y avait quelquefois la situation des parents qui appuyaient beaucoup, parce qu'il y avait des faut pas, mais il y avait des parents qui pouvaient être dans certaines difficultés au point de vue financier. Alors si le fils se trouvait, ou inversement, mais enfin, si le fils se trouvait une mariée qui puisse apporter une dot, elle était bien accueillie. Elle, non, mais la dot. Voyez-vous.
D'accord. Ça se faisait encore beaucoup. Oui, il n'y avait presque pas de mariage comme ça qui venait des jeunes eux-mêmes.
Il y en avait bien quelques-uns.
C'était rare.
Et alors, comme il n'y avait pas beaucoup de moyens de locomotion, les mariages se faisaient aux alentours.
Avec les gens qu'on connaît.
Avec entre villages. C'est pour ça que c'est ce qui explique que maintenant tout le monde est parent dans la même région.
Oui, oui,
oui. Et oui. On trouve, dans, par exemple, un village, ou bien ils ont un cousin germain avec celui-là, avec l'autre aussi, parce que tous se mariaient. Maintenant, ça n'a pas d'importance, on fait les jeunes.
Oui, il y a des moyens de communication, on va travailler ailleurs.
Oui, d'aller travailler ailleurs, d'aller à l'école, vous savez, ça fait faire
des connaissances. On rencontre pendant les vacances.
Voilà, oui, c'est ça. Tandis qu'à l'époque, vous savez, l'éveillé était un lieu de rencontre.
Oui, c'était l'éveillé surtout.
Bon, après il y avait bien quelques balles comme ça. Quelques balles, mais des balles. Les gens n'allaient pas loin.
L'éveillé et la foire, quoi.
Et la foire.
C'était le seul lieu de rencontre. Oui, oui, d'accord.
À quel âge qu'on avait le droit de se marier? À partir de quel âge?
Ah, mais comme maintenant.
Ça a pas changé.
Non, ça n'a pas changé. Dans le droit,
mais les gens se mariaient plus jeunes ou.
Plus vieux, je pense.
Plus vieux.
Oui, on aurait trouvé. Pas normal si vous.
Les garçons, peut-être plus vieux.
Oui, qu'un garçon se marie à 20 ans.
Les filles se
marient
jeunes.
À 20 ans.
Oui.
Ah, mais
les filles, elles avaient tendance à se marier plus jeunes. Puisqu'à partir du moment où elle était désignée à quelqu'un.
Oui, c'était un rapport.
Vous comprenez?
Et puis c'était un homme qui pouvait travailler là.
Voilà. Oui. Mais les garçons, il fallait comme on disait ici, qu'ils soient revenus du service militaire. Et puis qu'ils aient fait quand même une petite preuve dans la vie, voir s'ils étaient réellement sérieux ou,
courageux,
ou capables, voilà, c'est ça, de donner un foyer. Tandis que les filles, on les sacrifiait plus tôt, on disait bon...
Vers 15 ans, on les mariait.
Non, un peu plus tard peut-être.
15 ans.
Mais elles rentraient immédiatement sous l'emprise de celui auquel elles étaient destinées. Oh, comme elle ne faisait pas d'études.
Oui, les filles allaient beaucoup moins à l'école aussi que les garçons. Et ça aussi.
Parce que les mères aussi pouvaient être leurs.
Quoi?
Je dis c'était moins utile.
Non. Oui, c'était moins utile.
Oui.
Mais vous.
Non, mais c'est ça.
Non, mais c'est vrai, pour à l'époque, les filles allaient moins à l'école que les garçons. Maintenant, ça a changé un petit peu. C'est vrai, ça. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour quand même, non?
Où et la fille avant de se marier, il fallait qu'elle ait son trousseau.
Ah ben oui.
La dot.
Oui. Le trousseau, la dot.
Oh, mais la dot, dans les milieux populaires, la dot, ça se faisait plus.
Elle avait 4 paires de draps ou 8 paires de draps ou je sais pas combien de chemises en toile, et ça situait tout de suite le personnage, vous comprenez? Et il y en avait d'autres, les pauvres qui n'avaient pas de bras, qui n'avaient pas de bras.
Oui, mais la dot, ça se faisait encore quand même,
ah oui.
À cette époque-là.
Ah oui.
Même dans les familles pauvres.
Mais dans les familles pauvres, ils n'avaient rien à donner. Mais c'était les familles demi riches même, vous voyez, parce que dans les grandes familles, ça allait mieux.
Mais les petites fermes, déjà, il y avait des dots.
Ah oui.
Une petite ferme où il y avait une dizaine de vaches, il y avait une dot.
Il y avait une dot.
Remarque, c'est
des grosses fermes. On faisait faire une étape par le notaire, il y avait contrat de mariage et tout ce qui s'ensuit. Je porte ceci, je porte cela, je porte une armoire, c'est une porte une armoire, 4 assiettes, j'ai apporté 4 assiettes, ainsi de suite, c'est mon nez. Et oui.
Vous n'avez pas de vieux documents, de contrats, de vieux contrats de mariage?
Je dois en avoir, seulement il faudrait que je les cherche.
C'est beau ça. On aurait pu photographier, par exemple.
C'est même pas de photos de mariage d'anciens temps, vous m'entendez?
Ben, j'aurais des photos de mariage, j'en aurais donné des parents, ça ne monte pas plus loin.
De vos parents. Où il y a toute la famille.
Et ben, de vos parents, ça date.